Avant 9h, tout est possible.
Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1, Raymond Poirier au micro. Et en ce début de troisième jour de la semaine électorale, je suis rejoint une nouvelle fois par François G. Couillard. Bonjour.
Salut Raymond.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Alors la slush ce matin, malheureusement, mais le soleil est dans nos cœurs, c'est l'essentiel.
We will survive.
Et ce matin, on débute donc cette troisième journée. On est en compagnie de gens de l'Action démocratique du Québec. Je fais un petit tour de table. Alors premièrement, elle est candidate dans Tachereau, directrice adjointe dans une école secondaire de la Commission scolaire des Première seigneurie depuis 2000. Elle a œuvré également dans le domaine de la santé en tant qu'enseignante de 92 à 2000. René-Claude Lisotte, bonjour.
Bonjour.
Ensuite, il est candidat dans Jean Talon. Il est en train de terminer son doctorat en médecine expérimentale. Il est également le conseiller en matière de santé au cabinet du chef adéquiste Mario Dumont depuis 2007. Martin Briand, bonjour.
Bonjour, M. Poirier.
Et enfin, il est député de Jean Lesage et donc candidat dans cette circonscription et porte-parole de l'opposition officielle en matière de tourisme au dernier mandat, ancien directeur des ventes chez Eastman Kodak à Québec, Jean-François Gosselin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, peut-être on se contre pas d'histoire. Dans les derniers sondages, vous étiez à 12%. Vous avez commencé la campagne, on avait l'impression, l'ADQ veut former le prochain gouvernement. Finalement, l'ADQ veut retourner à l'opposition. Dans les dernières allocutions, j'entendais Mario Dumont dire « On veut former, envoyez-nous un mandat fort à Québec ». Donc, on parle même plus d'opposition. Et on se demande du côté des commentateurs si le parti va être reconnu avec au minimum 13 députés à l'Assemblée nationale ou 20% des intentions de vote. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu la débandade du côté de l'ADQ à regarder un peu ça et à regarder le message qui se transforme également?
Moi, je dirais pas. Je parle pas de débandade, certainement pas, parce que... vous savez, on se promène beaucoup sur le terrain et c'est encore très positif. Moi, c'est des... Écoutez, je regarde les sondages comme tout le monde, mais quand je me promène sur le terrain, moi, c'est des tapes dans le dos que j'ai à longueur de journée. Les gens disent « Lâchez pas, on a besoin de vous autres, continuez à vous battre ». Donc, nous, c'est dans cet esprit-là qu'on continue de faire notre campagne. Le débat d'hier soir a été fantastique. Les commentateurs, après, étaient unanimes aussi. Je pense au Club des Ex, là, même... Les commentateurs des deux autres partis, libéraux et péquistes, étaient unanimes à dire que Mario Dumont avait remporté le débat. Donc, ça devrait certainement donner un second souffle à la campagne nationale. Mais sur le terrain, je vous dirais que ça va encore très bien.
Oui, parce que dans le fond, on parle carrément de référendum chez certains sur l'ADQ en disant, regardez, est-ce qu'on veut avoir ce parti-là qui existe ou non? C'est une question de survie, à la limite, pour certains. Est-ce qu'on sent une certaine frénésie chez vos militants par rapport à ça?
Oui, mais je veux revenir sur les propos de mon collègue, M. Gosselin, Jean-François. Moi, j'ai fait la partielle au mois de septembre dans Jean Talon contre M. Bolduc. Puis, je suis même là, deux mois plus tard, là, sur le terrain, le feeling est complètement différent. Au mois de septembre, les commentaires que j'ai reçus étaient beaucoup plus durs que ceux que je reçois là, depuis les deux dernières semaines et demie, depuis les dernières trois semaines. Les gens sont... On ne sent pas du tout, ce qu'on voit dans les sondages, on ne le sent pas du tout sur le terrain. Les gens sont derrière nous. Il y a des gens qui, les gens viennent nous voir pour dire continuez, c'est important, on a besoin de vous.
Je pense que c'est important de rappeler que vous avez fait seulement 5% justement dans les partiels de Jean Talon.
Oui, effectivement, il n'y avait pas d'enjeu. Un député parachuté, un ministre qu'on envoyait dans le comté, même si les citoyens de Jean Talon votaient pour moi ou pour Mme Mercure, là, ça ne changeait rien. Dans le domaine de la santé, M. Charest a tout simplement nommé une autre personne comme ministre de la Santé. Il n'y avait pas d'enjeu national sur la santé, sur l'éducation, sur l'économie. C'était un ministre qu'on voulait simplement, à qui on voulait donner l'opportunité d'aller répondre à quelques questions à l'Assemblée nationale.
Et à qui on a donné un long mandat d'une trentaine de jours.
Tout à fait.
Moi, j'ai l'impression, dans cette campagne-là, qu'il y a eu des candidats de l'ADQ qui ont été un peu agacés, peut-être par les propos de Mario Dumont en cours de campagne. Et je veux savoir, est-ce que ça serait possible, l'ADQ, sans Mario?
Certes, là-dessus, moi, je peux répondre, puisque je suis député depuis un an et demi. Je vous dirais que, moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est que il y a tout ça 18 mois à peine, on disait que l'ADQ, c'était le parti d'un seul homme, Mario Dumont. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est très différent. Je pense, il y a ça deux semaines, quand, ensemble, avec René-Claude et Martin, on a présenté notre plateforme régionale.
Avec toute l'équipe.
Avec toute l'équipe, sans Mario, justement. Les gens sont venus, les journalistes, les gens sont venus vers nous et nous ont dit « Vous avez vraiment une équipe solide, C'est le fun de vous voir aller. C'est le fun que Mario vous donne plus de place aussi. En même temps, faut dire que si je prends mon exemple à moi personnel, dans les 6 à 8 premiers mois après mon élection, moi j'ai une maîtrise en administration. Là, je suis pas un acteur, juste la caméra. Je devais m'habituer à ça, les micros aussi. Et j'ai pris de l'expérience assez qu'aujourd'hui, je me sens plus à l'aise.
Mais justement, au début, est-ce que vous vous sentiez un peu isolé, peut-être?
Non, moi, je me sentais pas isolé. Moi-même, je voulais prendre l'expérience, 6 à 8 mois d'expérience, tranquillement améliorer mes capacités à justement répondre aux médias et aller dans les médias de plus en plus. Et c'est le cas aussi de... On était 36 nouveaux quand même à l'Assemblée nationale.
Et d'ailleurs, en fait, face à ça, on se rappelle, Mario Dumont a fait un peu son mea culpa, à dire, regardez, pardonnez-nous les erreurs de la dernière année et demie. À la conférence de presse, on vous parlait, je crois que c'est M. Lévesque notamment et d'autres qui l'ont rejoint, qui ont dit, ben regardez, effectivement, on a fait des erreurs pendant cette année et demie-là, on avait besoin d'apprendre, comme vous le disiez. Il y en a d'autres qui ont regardé ça, qui ont dit, ben par chance, on les a pas mis au gouvernement, parce que s'il fallait qu'ils prennent 2 ans pour apprendre à gouverner, ben on n'aurait pas été loin non plus.
Mais permettez-moi de revenir là-dessus. Le fait, vous parlez du soi-disant manque d'expérience, pourtant les libéraux qui avaient cette expérience, qui avaient promis de changer, de régler l'attente au niveau de la santé, c'est un échec. Qui avait promis d'améliorer l'économie. En 2003, on avait fait plein de promesses sur le pouvoir d'achat des Québécois pour améliorer leur santé, pour améliorer l'économie. C'est un échec. En éducation, le taux de décrochage, on est 10e sur 10, la province du Québec au Canada. C'est un échec. Mm-hmm. Donc, de dire que les députés de l'ADQ ont mis un peu de temps à se familiariser avec leur travail, c'est vrai. Je suis d'accord. Par contre, il y a des ministres qui ont été nommés en 2003, des ministres qui ont été nommés en 2007, qui avaient soi-disant cette expérience, puis qui ont échoué dans leur mission.
Donc, à la lumière de ça, dans le fond, on a un gouvernement libéral qui est très décevant, on peut s'accorder là-dessus. Et en parallèle, du côté de l'ADQ, vous en avez déçu plusieurs du côté de l'opposition. Alors, ce qu'elle revient à dire, peut-être un peu donner une chance au PQ, qui, eux, ont pas été touché directement, dans le fond, la situation dans les deux dernières années.
Les problèmes que le Parti libéral a échoué à régler, c'est le PQ qui les avait mis au monde. C'est aussi simple que ça. Les problèmes en santé, ça découle de... Je m'excuse, là, ça fait peut-être 10 ans, ça fait peut-être 6 ans que le Parti libéral est au pouvoir, mais de mettre des infirmières puis des médecins, c'est la première fois qu'on voit un gouvernement couper dans les services au lieu de couper dans la bureaucratie.
L'avocat du diable, les arguments de Pauline Marois à cette controverse-là, au fait que ce serait de la faute du PQ qui, à l'époque, avait mis les infirmières à la retraite. Les arguments de Marois contre ça, c'est de dire qu'écoutez, là, aujourd'hui, il y aurait environ à 70 ans, 75 ans, ces infirmières-là.
Mais c'est parce qu'en parallèle...
C'est pas vrai.
C'est parce qu'en parallèle, on a diminué les admissions dans les cégeps pour techniques infirmières, dans les universités pour les programmes de médecins. Ça s'invente pas un médecin, ça ne s'invente pas une infirmière ou un infirmier.
Mais donc, tout a été bloqué finalement, même les infirmières auxiliaires, tous les programmes au niveau de la santé ont été coupés. J'ai enseigné dans le secteur de la santé, j'étais infirmière aussi, ma première profession c'est infirmière. J'ai été touchée, et je suis pas à l'âge de la retraite présentement, et j'ai été touchée directement par le virage ambulatoire. Alors lorsqu'on dit au public que ça l'a touché que des femmes ou des infirmières ou infirmiers retraités, c'est faux.
Okay. On pourra revenir d'ailleurs sur le thème de la santé un peu plus tard. On se garde en banque. Si on reste un peu sur les bilans, on faisait un peu cette semaine, on rencontre dans le fond les différents partis et quand on a jasé avec certains, on leur demandait, ben regardez, faites-nous le bilan du caucus adéquiste dans la région de Québec. Eux nous disaient, ben regardez, les adéquistes n'ont pas de bilan, n'ont rien fait sur le terrain. J'imagine vous allez me dire, c'est pas le cas. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait. Si on fait une petite liste, là, quelques
on va vous donner des exemples, ça sera pas trop long. Premier exemple. Le stade de soccer intérieur de Chauveau. Okay? Si ça n'avait pas été de Sylvain Légaré, il n'y en aurait pas de stade de soccer intérieur à Chauveau. Sylvain Légaré, à l'Assemblée nationale, dans les médias, est sorti, a poussé sur le gouvernement. Finalement, le jour de la conférence de presse, il y avait évidemment la ville qui était représentée par M. Labombe, il y avait M. Couillard, et il y avait Mme Werner. Sylvain Légaré n'était même pas invité à la conférence de presse. On est allé quand même. Sylvain était... Je suis allé avec lui, on était... En arrière, personne n'a posé de questions, mais c'est Sylvain Légaré qui a poussé. Vous pouvez aller lire les verbatims à l'Assemblée nationale, c'est lui qui a poussé le dossier. C'est sûr qu'il n'a pas le crédit pour, mais c'est quand même grâce à lui que les jeunes vont jouer au soccer intérieur à Chauveau.
Mais sinon, vous-même, M. Gosselin, vous étiez élu. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, personnellement?
Ben là, je commence par Sylvain, là, je vais y aller avec moi. Moi, mon gros dossier en mars 2007, quand j'allais voir la population, je demandais aux gens quelle devrait être ma priorité dans le comté. Les gens me répondaient d'Estimoville. OK? Ça faisait 18 ans avant moi que les libéraux avaient eu 18 années, dont 14 de ces années au pouvoir. Jamais rien n'a été fait, même que ça a été bloqué. Le PQ sous Bernard Landry, avant 2003, avait un projet de déménager des fonctionnaires provinciaux du revenu à d'Estimonville. Et quand les libéraux sont entrés au pouvoir en 2003, même si c'est un député libéral qui était ici, un ministre, tout a été bloqué et jamais rien s'est fait. Moi, en 18 mois, j'en ai fait plus que les libéraux en 18 ans. Je vais vous nommer le projet rapidement. La neurosité qui était annoncée par le gouvernement en grande pompe, un gros show de boucan, ça fait un an et demi, on n'a pas de nouvelles. Par contre, c'est un projet, il faut qu'il se fasse, c'est un merveilleux projet, mais c'est encore au stade embryonnaire. Là. OK, on commence encore les démarches. Deuxième projet, les fonctionnaires fédéraux. Ça, c'est important de le dire, c'est pas seulement moi qui ai réussi à faire avancer ce dossier-là, c'est avec l'appui de mes collègues des caisses de région de Québec, mais la population, les chambres de commerce, même les députés adversaires du PQ et du Bloc québécois m'ont appuyé là-dedans.
Mais cela dit, les fonctionnaires, il y en a qui sont rendus à Sainte-Foy, je pense que c'est ceux de la CARA, ça, rien n'est réglé.
Ça, là. J'y arrive. Les fonctionnaires fédéraux, le projet avait été annoncé dans Saint-Roch en décembre 2006 et en mars 2007. Encore là, les libéraux étaient en majorité dans la région de Québec. Moi, avec des appuis, j'ai réussi à aller, je suis monté à Ottawa, là, rencontrer M. Harper aussi, pétition de 6000 noms. On a réussi à agrandir le périmètre et inclure d'Estimonville. Présentement, on est en appel d'offres. De ce que je comprends, ça regarde très bien pour d'Estimonville. Okay? L'autre projet que vous venez de mentionner, c'est la CARA, les fonctionnaires provinciaux de la CARA. Il y a tout ça, 3 semaines, mes sources, j'ai eu l'information que le gouvernement libéral était en train d'envoyer ça en cachette dans Sainte-Foy, au lieu d'Estimonville. Voulait pas que ça se sache en campagne, évidemment. En fait, il y a deux scénarios. Soit que les libéraux n'étaient pas au courant. Jean Charest, qui s'est auto-proclamé ministre responsable de la capitale nationale, ne serait pas occupé de ses dossiers. Aurait passé l'été à serrer des mains et à prendre des photos bloquées de centièmes en prévision de la campagne électorale. On comprend mieux aujourd'hui, là, mais... Donc, on a appris ça. Ça, c'est le premier scénario. Soit que M. Jean Charest s'est pas occupé de ses dossiers, ou il savait, et comme dans le cas d'Abitibi-Bowater, en cachette, en catimini, il envoyait les fonctionnaires de la CARA dans Sainte-Foy au lieu d'Estimonville.
Mais par rapport à d'Estimonville, M. Gosselin, on dit dans le fond, ben, c'est clair que c'est votre priorité, et c'est la priorité d'un peu tout le monde aussi dans la région. Alors, qu'est-ce qui fait que l'ADQ serait plus en mesure de piloter ce dossier-là qu'un représentant libéral qui en fait sa priorité, qu'un représentant péquiste qui en fait sa priorité?
Simplement parce que moi, quand je l'ai dit en mars 2007, je l'ai fait. Aujourd'hui, si on parle de d'Estimonville, c'est parce que l'ADQ est entrée dans Jean Lesage. Comme j'ai dit tantôt, les libéraux ont été en poste 18 années auparavant, donc 14 au pouvoir, absolument rien fait. Là, on dit, à tous les ans, ils disent qu'ils veulent relancer d'Estimonville. D'ailleurs, quand on a appris dans un quotidien de Québec que les fonctionnaires provinciaux de la CARA s'en allaient à Sainte-Foy, 3 pages plus loin dans le même journal, le candidat libéral disait faire de la relance d'Estimonville sa priorité. Donc, je pense que sa priorité aurait été de parler
au chef. Sur votre question, vous parlez de pourquoi on serait plus à mesure de nous de respecter cette priorité. Je vous rappelle qu'en 2003, et je me permets de revenir sur le sujet, M. Charest avait fait de la santé sa priorité. Est-ce qu'il a réussi? Non. La réponse, c'est non. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, de voir le gouvernement Charest établir ou se donner des priorités, c'est pas un gage de réussite, c'est pas un gage de succès en bout de ligne, là. Absolument pas.
Et ce qu'on doit dire, c'est que l'ADQ, c'est un parti d'action. Alors, ce qu'on a devant nous, c'est des partis qui répètent toujours les mêmes choses, les mêmes discours, mais au niveau de l'action, c'est pas efficace. Maintenant, souvent, on remet en question l'expérience de l'équipe ADQiste. Ben, allez visiter notre site web, regardez nos expériences professionnelles. Je peux vous dire que moi, ça m'a impressionné et j'ai réalisé que dans le fond, ce qui circulait dans les médias, c'était pas toujours vrai sur les candidats ADQiste. Une très belle expérience diversifiée, une moyenne d'âge dans la quarantaine, et de nous dire qu'à 40 ans, on n'est pas en état de gérer l'État.
Et d'ailleurs, M. Briac, on reçoit ici, là, il y a une liste de distinctions honorifiques là, sur le site de l'ADQ.
Tout à fait. J'ai quelques dossiers aussi au niveau régional.
On va prendre le temps peut-être tout à l'heure d'y aller par thème.
Il nous reste une heure encore.
Il nous reste une heure, donc il n'y a pas de stress. Là-dessus, moi, je vous propose peut-être de prendre une petite pause avant de se lancer de plein pied dans le dossier économique, le dossier des infrastructures. Alors, je rappelle, on est toujours en compagnie donc de René-Claude Lisotte, candidate dans Taschereau, Jean-François Gosselin, candidat dans Jean Lesage, Martin Briand, candidat dans Jean Talon, tous de l'Action démocratique du Québec, à l'animation François Gicouillard et moi-même Raymond Poirier, en musique, Cœur de pirate. D'entendre Cœur de pirate avec la pièce Pour un infidèle, toujours à l'antenne de CKRL, Raymond Poirier au micro en compagnie de François G. Couillard et nous-mêmes en compagnie de René-Claude Lisotte, Jean-François Gosselin et Martin Briand, candidats hors-déquistes dans la région de Québec. Au retour, ben, peut-être une petite question que je lance un peu à tous les partis, qu'on chronomètre, là, on dirait une minute et demie là, à peu près. Qu'est-ce qui fait que l'Action démocratique du Québec et que ses députés seraient peut-être un peu mieux placés que les autres formations des quatre autres partis pour gérer la crise économique? Donc, si vous vendez un peu votre salade, là, une minute et demie. Là.
On l'a vu hier soir. Je n'aurais même pas au courant de la dette du Québec. Donc, vous avez là, un dirigeant qui ne sait même pas combien il y a dans son compte en banque, qui ne sait même pas le solde sur ses cartes de crédit. Puis nous, citoyens, là, on voudrait lui confier notre argent, notre portefeuille, à quelqu'un qui ne sait même pas, qui ne connaît même pas la situation du pays et de la province qu'il dirige. C'est inquiétant. On vient de traverser 14 ans, une période de 14 ans de prospérité économique. Puis au bout de ces 14 ans-là, ce qu'on a, c'est rien. On ne s'est pas gardé un sou pour faire face à une éventuelle crise. Donc, un dirigeant qui n'a pas été capable de mettre à chaque jour, là, dans une banque, dans le coin, de mettre un petit 2$ à chaque jour pour dire probablement que dans quelques années, on va vivre une période difficile. On arrive à la porte de cette période difficile-là. On va casser le petit cochon parce qu'on va avoir besoin d'argent, puis il n'y a pas une scène dedans. Il n'y a pas une scène.
Ce qu'on propose, nous, l'ADQ, c'est de remettre le pouvoir d'achat dans les mains de la population.
Alors, redonner des sous.
Exactement. Et qu'ils puissent décider de faire leur choix dans l'économie plutôt que l'État s'occupe de gérer ça.
Vous parlez des crédits d'impôt sur les intérêts hypothécaires, c'est ça?
Exactement. Les allocations familiales, 100$ par enfant par semaine. Alors, il y a plein de mesures, l'aide aux aidants naturels aussi qui est là. Alors, c'est qu'on remet dans les mains de la population le pouvoir de décider ce qu'ils vont faire.
Et d'ailleurs, il y a des
coupes.
T'allais dire la même chose que moi.
Oui, les coupes au niveau fédéral, au niveau du fonctionnaire, de la fonction publique, en fait. Peut-être je vais me lancer là-dessus, après ça, je te laisse te lancer sur ce que tu voulais, François. 2 milliards de dollars de coupes dans la fonction publique. Vous dites, en fait, Jean Charest ne connaît pas le déficit, mais de votre côté, on ne sait pas qu'est-ce qui va être coupé non plus.
C'est
et
faux.
À Québec,
c'est
en
faux.
Fait,
c'est faux. C'est annoncé lorsque M. Taillon, M. Dumont ont annoncé leur plan économique. Ils ont dit exactement mot pour mot, retourner. C'est le samedi qu'on était ici au Colisée pour annoncer un nouvel amphithéâtre et un investissement dans les infrastructures sportives. Mm-hmm. Le 2 milliards a été décortiqué et été expliqué abondamment. Premièrement, il y a une coupure de 1% dans tous les ministères, dans la bureaucratie. Mm-hmm. Ça, c'est 600 millions. Tout le monde compte. Deuxièmement, commission scolaire, une structure bureaucratique qui est inefficace, qui nuit à l'initiative, qui empêche les professeurs, les directeurs d'école d'avoir des idées novatrices, de mettre de l'avant dans leurs idées novatrices, c'est 400 millions. Ça fait 600 millions plus 400 millions, ça fait 1 milliard. Tout le monde nous suit. Il y a un autre milliard qui est coupé dans les subventions aux entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que les subventions aux entreprises au Québec, c'est 3 milliards. C'est plus que les 9 autres provinces additionnées ensemble.
Mais là, quand vous parlez que vous coupez, mettons, dans les commissions scolaires, là, d'accord? Mm-hmm. Mais vous dites que vous allez récupérer quoi, 400 millions là-dessus, vous avez dit?
Oui.
Bon, mais il va falloir quand même les remplacer par quelque chose d'autre. Si c'est des structures, ils vont en avoir quand même. Je veux dire, faut pas juste les faire disparaître puis ça va revenir tout comme avant. Puis d'ailleurs, Mario Dumont disait que là, son rêve, son l'American Dream, l'idée de comme le symbole du Barack Obama à lui, c'est les écoles au Québec. Donc, s'il coupe dans les commissions scolaires, ça va
non,
générer un peu d'instabilité.
C'est pas de remplacer une structure par une autre. C'est pas ça. Nous, c'est l'école autonome. Moi, j'ai en tant que député, évidemment, là, j'ai fait mes devoirs pendant 18 mois. Je suis allé voir les commissions scolaires. Je les ai rencontrés, j'ai rencontré les dirigeants, j'ai rencontré le personnel qui travaille là. Puis je peux vous dire une chose, c'est qu'ils m'ont convaincu d'abolir les commissions scolaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont tellement compétents, ces gens-là, tellement passionnés pour l'éducation, qu'on n'a pas besoin dans une structure bureaucratique, dans des bureaux, on a besoin d'eux dans les écoles. C'est simplement ça. Et j'ai amplement confiance en mes directeurs d'école, en mes directrices d'école, en mes enseignants, du monde, des gens ultra compétents pour diriger l'école avec des comités de parents. Aucune inquiétude. Nous, c'est le modèle, l'école autonome, l'argent directement à la base dans les services pour faire du sport-études, du hors-études, tout ce que ça prend pour raccrocher et empêcher les jeunes de décrocher de l'école. Développer talent.
Mais en fait, est-ce que ça risque au bout du compte, par contre, et sûrement que vous saurez me répondre, mais si toutes les écoles sont gérées de manière autonome, il n'y a plus de standards au niveau gouvernemental, comment on fait pour s'assurer que tout est bien enseigné? Puis c'est une job des commissions scolaires, ça.
Non. C'est le ministère. Le ministère a un programme éducatif qui doit s'assurer, le ministère doit s'assurer que le programme éducatif est respecté par toutes les écoles du Québec. Ça, c'est le travail du ministère. Ce travail reviendra au ministère aussi, s'assurer que le programme, le projet éducatif soit le même pour tous les enfants du Québec. Maintenant, savoir pour le petit garçon de Val-d'Or ou pour la petite fille de Baie-Comeau ou de Saint-Georges, la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour lui ou pour elle, c'est le directeur de l'école de Val-d'Or ou c'est le directeur de l'école de Saint-Georges ou son professeur. C'est pas quelqu'un qui est dans une tour ici au ministère de l'Éducation qui prend une décision qui pour tous les enfants du Québec. On a rencontré les dirigeants d'école, les directeurs d'école sont d'accord avec nous. Moi, j'ai rencontré les directeurs des cégeps ici, entre autres. Puis les gens, ce qu'ils veulent, les gens veulent être autonomes dans leur gestion de leur école. Puis avec ça, ils sont prêts à en assumer les responsabilités, puis ils sont prêts à se prêter à l'exercice de reddition de comptes. Oui, on accepte qu'on va avoir des comptes à rendre, mais on veut, nous, diriger nos écoles.
Mais ce qui m'agace avec ça, c'est qu'on dit aussi qu'on a des structures qui s'appellent les commissions scolaires, et même si on se dirait, ils sont à 50% inutiles, il y a quand même une job de 50% qui doit servir à quelque chose à quelque part et que quelqu'un devra faire. Si on augmente la charge administrative des directeurs d'école qui ont déjà quand même une bonne charge de travail, vous n'avez pas l'impression que ça risque d'alourdir un peu plus leur tâche, d'alourdir la tâche à quelque part? Les villes, à l'époque, quand vous l'aviez proposé en 2007, on disait, regardez, on n'en veut pas. Il y a plusieurs fédérations qui sont sorties également à ce moment-là.
Mais oui, ça se redistribue à quelqu'un d'autre, puis il y a moyen de s'organiser avec ça. Ce qui est un peu... C'est un peu choquant parce que dans le fond, on parle toujours de l'administration puis des postes bureaucratiques. Puis l'élève qui est en difficulté, on n'en parle pas encore. Ce qu'on veut, nous, l'Action démocratique du Québec, c'est faire en sorte qu'on donne une chance à tout le monde dans la vie à faire sa place dans la vie. Et présentement, il y a de multiples élèves en difficulté d'apprentissage, certains avec troubles de comportement, et on les échappe. Le renouveau pédagogique présentement a creusé l'écart des retards académiques. Personne n'en parle. On a un problème. Sérieux, personne ne parle de ça. C'est eux qu'il faut... C'est des garçons. C'est les garçons qui sont en détresse présentement. C'est le temps qu'on se réveille. Et nous, on est en action, on est prêt à agir pour les aider.
On rappelle déjà qu'on est dans la section économie, mais bon, on a des dérivés vers l'école. Là, j'aimerais ça savoir, là, vous parlez justement d'école autonome. Moi, j'aimerais ça que vous précisiez votre pensée. C'est quoi une école autonome?
Juste avant, juste préciser la question que vous avez dit, les commissions scolaires, ils ont des rôles à assumer. Puis les municipalités s'étaient montrées un peu réfractaires à ça en 2007. C'est pas pour rien, c'est parce que depuis plusieurs années, les gouvernements libéralo-péquistes ont pelleté des responsabilités dans la cour des municipalités, mais les budgets, les revenus n'ont pas suivi. Tu sais, chat échaudé craint l'eau froide. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, il y a des responsabilités, exemple, la gestion des infrastructures des écoles sera confiée aux responsabilités, mais il y a une enveloppe budgétaire qui va suivre.
Donc, dans le fond, sur
les reconnu, l'Action démocratique du Québec, c'est la seule formation politique qui reconnaît le déséquilibre fiscal entre la province du Québec et les municipalités. Parce que pendant de nombreuses années, les gouvernements ont pelleté les responsabilités dans le cours des municipalités, les budgets n'ont pas suivi. Donc, ce côté-là, au niveau de la gestion des infrastructures, on veut les confier aux municipalités, mais il y a une enveloppe d'argent qui va suivre.
Donc, dans le fond, sur le 400, mettons, qu'on veut économiser, il y en a quand même une partie qu'on va réinvestir. Donc, au bout du compte, on n'arrive pas nécessairement à 2 milliards.
Le 400 millions, c'est la gestion des commissions scolaires. Mm-hmm. En dehors de ça, la commission scolaire, ils ont des budgets à gérer pour s'occuper des infrastructures. Ces budgets-là vont être transférés aux municipalités.
Si on saute en veste, si on reste un peu dans les coupures au niveau de la fonction publique, je vous lance l'argument de Québec solidaire que je trouvais pas inintéressant. J'aimerais avoir vos réactions là-dessus. Donc, eux, du côté de Québec solidaire, disent que les fonctionnaires provinciaux, les gens qui travaillent dans ces zones-là, sont aussi des gens qui appartiennent à la classe moyenne. Et donc, de dire on veut couper dans le gouvernement pour redonner à la classe moyenne, mais on diminue aussi la portée économique de ces gens-là, on coupe des emplois, et dans le fond, au bout du compte, ils disent, regardez, pour soi-disant enrichir la population, en réalité, vous allez l'appauvrir.
En fait, c'est pas de couper les salaires, c'est pas de couper dans le personnel. Au contraire, on parle de 1%. 1%. Tout le monde se serre la ceinture présentement en prévision de la crise économique qui s'en vient, qui est mondiale. Tout le monde se serre la ceinture. Ce qu'on demande, c'est au gouvernement, on demanderait au gouvernement tout simplement de réduire ses dépenses de 1%. Là, ça veut dire peut-être les écrans plats, pas les remplacer cette année, mais l'an prochain, c'est 1%. C'est 600 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et non, c'est pas de couper dans les services à la population, c'est de couper, comme mon collègue l'a dit tantôt, dans la bureaucratie, dans des petits extras qu'en croissance économique, peut-être on se permet, mais là, on demande aux gens de serrer la ceinture un petit peu 1%.
C'est surtout de rendre plus efficient ce qui se fait déjà. Peut-être qu'on a une perte d'argent, d'efficacité, parce qu'on se dédouble, on répond pas adéquatement, il y a quelque chose à perfectionner pour optimiser le rendement de l'État. C'est ça qu'on veut.
Le Parti libéral a déjà fait de la réingénierie. Il a déjà fait une partie.
Ils ont abandonné. Ils ont abandonné.
Plus de fonctionnaires qu'en 2003.
Mais... Pourtant, ils disent qu'ils ont coupé d'environ 4000, plus de 4000 fonctionnaires.
C'est parce qu'ils coupent. Ils coupent d'un côté, mais ils en ajoutent de l'autre côté.
Et peut-être, en fait, avant de... Bon, je vais me garder peut-être le dossier aide sociale pour le retour de la publicité tout à l'heure, mais je voudrais peut-être vous lancer une ou deux dernières questions sur ce petit bloc économique-là. Notamment, juste avant l'élection, le gouvernement Charest a fait une promesse au niveau de l'économie sociale, un peu plus d'une dizaine de millions de dollars qui est investi dans le réseau à la grandeur de la province. On sait qu'à Québec, excluant le mouvement Desjardins, à peu près 600 entreprises coopératives ou d'économie sociale, on sait que ça génère au-dessus de 2000 emplois. Du côté de l'Action démocratique, qu'est-ce qu'on compte faire pour... Est-ce qu'on reconnaît peut-être un peu de A, l'importance de cette économie-là, surtout en situation de crise, et de B, si on la reconnaît, qu'est-ce qu'on compte faire pour en encourager le développement?
Bien, nous, on croit beaucoup aux organismes communautaires, à toute l'action communautaire, surtout dans Tachereau, là, il y a plusieurs organismes et ils font un travail incroyable.
Mais je fais une parenthèse, je ne parle pas d'organismes communautaires, on parle de coopératives, d'entreprises, en fond des PME, mais qui font l'économie différemment.
D'accord.
Donc, premièrement, s'il y a une seule formation politique au Québec qui vante les mérites des coops de santé, entre autres, c'est nous. C'est un exemple parfait, concret, de citoyens qui s'organisent, qui se responsabilisent, qui, de façon autonome, qui décident, on a besoin de services de santé, le gouvernement ne répond pas à nos attentes, ne répond pas à nos objectifs, on va s'organiser entre nous. On est tout à fait d'accord avec ça, puis même on l'encourage. Que les gens veuillent se prendre en main, on encourage ça à...
Donc dans le fond, des gens, parce qu'il y a des coopératives de santé, il y en a dans tous les domaines, des coop funéraires, etc., la Barberie, qui est une coopérative de, mm-hmm. de travail. Comment on fait pour... est-ce que vous avez des idées concrètes pour, à Québec, dans le fond, encourager la formation d'entreprises comme celle-là, d'entreprises par le milieu, pour le milieu?
Nous, c'est souvent au niveau de la réglementation qu'on intervient. Et moi, dans mon court mandat, là, j'ai pu découvrir aussi une entreprise que vous connaissez sûrement, là, Café Nagua, sur la première avenue. C'est vrai aussi dans les coopératives, mais dans toutes formes de PME au Québec, la réglementation est tellement lourde qu'on parle d'un fois de 1,5-2 ans avant de pouvoir. Ça décourage beaucoup de gens. Et nous, on avait même un critique qui était strictement concentré sur pour l'allégeance réglementaire, qui voulait diminuer l'allégeance réglementaire, c'est qu'au lieu de mettre des bâtons dans les roues pour ces entrepreneurs-là, nous, on veut les enlever, on veut que les fonctionnaires, le gouvernement soient là pour accompagner et même pousser quasiment un peu notre entrepreneurship au Québec, parce que vous savez, le Québec s'est construit avec des entrepreneurs, des bâtisseurs. Nous, on veut revenir à ça, on veut accompagner, mais on veut même les pousser. C'est surtout au niveau de la déréglementation.
Mais à l'ADQ, là, ce qu'on vit surtout, nous, on veut s'offrir comme facilitateur. Les gens qui veulent démarrer en entreprise, les gens, que ce soit au niveau de l'économie sociale ou peu importe, les gens qui ont des idées, qui ont des projets, on s'offre comme facilitateur, on veut les aider à démarrer leur projet. Par contre, ce qu'on vise, ce qu'on demande à ces gens-là, c'est que ces gens-là doivent viser l'autonomie financière. Et non pas toujours être accrochés à l'État. Nous, on veut être facilitateurs, on veut aider les gens à démarrer, à se partir dans la vie, mais ce qu'on demande aux gens en retour, c'est qu'on leur demande de viser l'autonomie, de viser la responsabilité, puis d'être capable de fonctionner par eux-mêmes par la suite.
Ah ben, là-dessus, on s'en va en publicité. On revient tout de suite après. Je vous rappelle, on est toujours avec donc trois candidats de l'ADQ. René-Claude de Lisotte, candidat dans Taschereau, Martin Briand, candidat dans Jean Talon, Jean-François Gosselin, candidat dans Jean Lesage, François Gécouillard et moi-même Raymond Poirier. Et au retour, on va parler d'aide sociale, toujours à l'antenne de CKRL 89.1.
Les technologies numériques peuvent-elles nous mener à vivre en solidarité avec l'ensemble de la planète? Pour analyser cette idée, la chaire publique de l'Allier a invité Pietro Sicuro de l'Institut de la francophonie numérique, le journaliste François Huot et le professeur Karuranga de l'Université Laval. Cette conférence gratuite aura lieu le 26 novembre prochain dès 11h30 à l'Agora du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. C'est d'actualité et c'est gratuit. Pour information, 418-656-7190. Ne manquez pas Martha Wainwright en spectacle au Palais Montcalm le 16 décembre prochain. Après vous avoir enchanté avec son deuxième album, I Know You're Married, But I've Got Feelings Too, Martha Wainwright vous interprétera ses pièces rythmées et sensuelles qui ont réjoui les fans et la critique. Découvrez une grande artiste qui vous séduira par sa voix et son immense talent. Billets en vente au 681-6040 et sur billettech.com.
La coopérative funéraire des Deux-Rives, la Caisse des Jardins de Limoilou et le notaire André Soucy de l'étude Soucy-Roy-Gauvreau vous invitent à écouter les chroniques de planification de fin de vie les samedis matins à 10h et 10h30. Au fil des semaines, différents collaborateurs impliqués dans le milieu parleront de gestion de l'héritage, du rôle des notaires face à la succession, de planification funéraire et autres sujets qui nous concernent tous. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez avoir des réponses lors de ces chroniques, n'hésitez pas à nous écrire à retour@commercial.ckrl.qc.ca.
Ouvert depuis 1985, le Bal du Lézard, situé au cœur du magnifique quartier de Limoilou, est un classique pour les étudiants. Voici ce que vous y trouverez. Un spectacle tous les jeudis et samedis soirs, de la vodka, une spécialité offerte en 15 variétés, un 5 à 7 tous les jours, Internet sans fil gratuit, 3 bières pression de la Barberie, petite bouffe, soit pizza ou hot dog européen, du baby foot gratos les mardis, des expositions. Le Bal du Lézard, 3e avenue à Limoilou, 529-3829 ou lebaldulezard.com. Au Bal du Lézard, vous n'aurez plus le sang froid.
Soyez toujours gentils avec ceux qui jouent au Loto 649, puisque ce soir, le gros lot du Loto 649 est évalué à 16 millions de dollars.
Vous écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.
Avant 9h, tout est possible.
Ah ben, toujours à l'antenne de CKRL 89.1 cette charmante matinée du 26 novembre. François G. Couillard toujours avec nous. Et bien entendu, toujours avec nous également, trois candidats de l'Action démocratique du Québec. René-Claude Lisotte, Martin Briand, Jean-François Gosselin. On va faire une petite parenthèse, un petit ajout, vu qu'on a obliqué sur l'éducation dans le dossier économique, on a obliqué sur l'économie dans le dossier environnement, éducation, société. L'aide sociale, en fait, l'ADQ a proposé de se faire signer un contrat, vous me corrigez si j'erre, à 70 000 bénéficiaires pour les amener à retourner en emploi. On parle de délai d'à peu près 3 ans. Qu'est-ce qui vous amène à dire à l'ADQ que c'est la bonne décision? En quelques mots, pourquoi ce serait la solution?
Okay. Moi, écoutez, je suis député depuis 18 mois, OK? J'ai beaucoup, dans Limoilou, dans Giffard, dans Beauport, beaucoup de cas d'aide sociale, et on fait toujours la distinction entre ceux qui sont sur l'aide sociale aptes au travail. Il y en a 1500 dans Limoilou, il y en a 500 dans ma partie de Beauport, 2000 personnes aptes au travail, sans contrainte à l'emploi, et ceux qui sont inaptes au travail, OK? Ça, c'est la première distinction. Il faut faire bien attention parce que j'ai souvent des questions là-dessus de la part de mes concitoyens. Et moi, ce que je dis toujours, quand les gens venaient me voir au bureau et me récitaient un peu leur histoire, et là, je leur disais, vous êtes compétent, vous êtes intelligent, vous n'avez pas besoin du gouvernement pour vous remettre sur le marché du travail, ayez confiance en vous. Et là, il me répondait, ben voyons, le député avant, lui, nous donnait de l'argent. Je disais, non, moi, je fais mieux que ça encore. Je vais vous aider, je vais vous accompagner à retourner sur le marché du travail. Vous êtes apte, vous n'avez aucune contrainte à l'emploi. Je disais, au lieu de passer votre énergie à essayer de... On a tous des exemples dans la tête là, de gens là, qui reçoivent leur chèque et qui travaillent au noir un peu, mais moi, je leur dis, arrêtez de faire ça, retournez sur le marché du travail, on a besoin de vous. Et je vous dirais que la réaction des gens, j'avais l'impression que les gens, jamais personne n'avait vraiment cru en eux. Et moi, je crois, je suis de Limoilou, hein, puis j'habite encore dans Limoilou, et si quand on nous donne notre chance, on nous appelle les démunis, défavorisés, mais quand on nous donne notre chance, on est capable de grandes choses parce qu'on a toujours dû se battre pour avoir ce qu'on a.
Et ça, quand je regardais... Ça relève pas un peu peut-être de l'American Dream, tu sais, justement, le petit gars qui peut s'en sortir.
Ben, justement, et qu'est-ce qui est de valeur là-dedans, c'est que parce qu'il y en a qui profitent un peu du système, ben, on peut pas en donner plus aux autres qui sont inaptes au travail, soit parce qu'ils ont des handicaps physiques ou mentaux, soit parce qu'ils ont des coups durs dans la vie, ils veulent s'en remettre, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Je donne toujours l'exemple d'une mère monoparentale qui se retrouve avec un enfant, deux enfants, trois enfants, qui a besoin d'un petit coup de main. Eux, on devrait les aider plus, mais on peut pas parce que on envoie des chèques à d'autres qui profite un peu du système et des largesses du système.
Deux questions là-dessus. Peut-être que je vous lance la réflexion, peut-être qu'en même temps, ça va vous amener. C'est que du côté des luttes, des groupes de lutte à la pauvreté, ce qu'on dit, c'est qu'on indique de A que les fonds consacrés à l'aide à l'emploi ont diminué de 16,6% au Québec depuis l'an 2000. Donc, on donne pas plus d'argent ces temps-ci, surtout qu'avec l'augmentation du coût de la vie, ça a été indexé là, récemment, je pense, de quelques montants, mais ça reste relativement faible. Les conditions de vie, nous dit-on, ont contribué à les éloigner davantage de l'emploi plutôt que d'en les rapprocher. Et ce qu'on observe du côté de ces groupes-là, c'est que si on augmente l'aide, on augmente l'appui, on augmente le soutien, eh bien, ça en amène plus à retourner au travail que si on diminue les aides puis on essaie, dans le fond, de plus y aller avec la carotte puis le bâton, là, comme vous semblez le proposer.
Dans le contrat qu'on propose, il y a une démarche de retour au travail. Il y a une formation. On va accompagner l'individu, on va lui donner une formation si on a besoin. Ce qu'il faut faire, c'est que, comme Jean-François le dit, tout le monde a au moins un talent. Il faut le découvrir, il faut accompagner les gens pour aller chercher une formation à ce niveau-là, puis on va les accompagner. Puis le but visé, par ça, c'est que, un, au Québec, puis particulièrement la ville de Québec, l'un des gros problèmes auxquels on fait déjà face, c'est le manque de main-d'œuvre.
Exact.
Il y a des entreprises qui doivent fermer, pas parce que ça va pas bien, parce qu'ils n'ont pas d'employés. Donc, on a un besoin immédiat, on a un besoin pressant de main-d'œuvre. Donc, il y a un marché pour les gens qui veulent retourner au travail, il y a un marché pour le faire. Nous, on va les accompagner autant pour aider à trouver le travail que pour les former. Puis le deuxième but visé, ça sera pas long, René-Claude, c'est que, comme Jean-François le dit, le but qu'on vise surtout avec ça, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas les capacités physiques, qui sont malades, qui sont à la maison, puis ce qu'on veut faire surtout, c'est de leur redonner un niveau de vie décent.
Donc, on les augmenterait de...
Oui, tout à fait. L'argent qu'on récupère, nous, le programme qu'on a annoncé, je vais vous donner les chiffres, on récupère 70 millions en retournant 70 000 personnes au travail. Il y a 30 millions d'investis pour aider les entreprises à accueillir ces gens-là. Puis le 40 millions restants, on le redistribue aux gens qui sont sur les programmes de solidarité sociale qui sont inaptes au travail pour améliorer leurs conditions de vie.
Vous n'avez pas peur que ça ait l'air un peu d'une solution un peu simpliste ou en même temps dire, regardez, ils sont un peu paresseux, il faut les encourager simplement pour les accompagner. Il y en a qui disent que ça alimente peut-être un peu plus les préjugés des mesures.
Pas de l'avancée magique un peu? Hein?
Moi, j'ai travaillé en formation professionnelle. Ils s'en montrent déjà des cours adaptés pour une clientèle comme ça, que ça fait des années qu'ils n'ont pas été sur le marché du travail, qui ont des difficultés personnelles de toutes sortes. Hein. Il y a vraiment... on a des gens qui ont de la misère, hein. Qui ont de la misère financièrement, qui ont de la misère par un problème de santé, des problèmes de santé souvent causés par des problèmes de logement aussi. Moi, là, ce que je pense de ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un individu, qu'il puisse exploiter un de ses potentiels. Dans la vie, c'est ce qu'on souhaite à nos enfants. Puis là, on laisse des adultes dans la maison à attendre.
Comment
dire? Ils sont aptes au travail. Alors, il faut exploiter le potentiel des gens. Nous, on croit en ces gens-là. Puis c'est pour ça qu'on veut les aider.
Vous avez parlé de logement aussi. Logement social, qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Est-ce qu'il en manque dans la région de Québec là, de logement social?
Effectivement, il faut
investir. Nous, c'est justement, c'est améliorer le statut économique des gens. Les gens qui sont sur l'aide sociale, le retour au travail va faire en sorte de bonifier leur statut économique, de bonifier leur salaire, leur revenu. Puis les gens qui sont inaptes au travail, par l'argent qu'on économise d'un côté, ben on va eux aussi améliorer leur statut économique. Donc, on va donner le pouvoir à ces gens-là de pouvoir se loger convenablement. Puis, je veux juste revenir à ce que René-Claude disait, c'est que il y a une expression qui dit, à peu près en ces mots, si on veut rendre service à un homme, faut pas lui donner à manger, il faut lui apprendre à chasser puis à pêcher.
Mais qu'est-ce que vous répondez au fait que vous dites qu'il y en a 70 000 qu'on peut remettre au travail et le ministère dit qu'il y en a seulement 12 000?
Non, c'est pas vrai. Il y a 100, j'ai les chiffres avec moi. Il y a 130, je vais vous donner ça, ce sera pas. Des prestataires qui sont aptes au travail, il y en a 151 000 au Québec. Ça, c'est le rapport de juillet 2008.
Et ben en fait de la pauvreté.
Préparé.
Et en fait peut-être j'aimerais qu'on s'assure qu'on ait le temps de parler un peu de santé. Alors si ça vous convient, je ferais peut-être le pont vers ce dossier-là parce que c'est certain qu'un des éléments qui inquiète peut-être le plus face à l'Action démocratique du Québec, c'est votre idée d'aller vers un système de santé pratique mixte dans le fond. Okay, donc
d'accord.
Le privé est déjà présent dans le système à certains égards. Vous voulez qu'il soit plus présent. Donc, vous n'avez pas peur que ça vienne au bout du compte peut-être affaiblir le système? En quoi, dans le fond, mettre le privé là-dedans, ça réglerait vraiment tous les problèmes du système de santé?
Pas du tout. Premièrement, la portion du privé qui est occupée dans la santé, ce qui est important de savoir, c'est pour des services qui sont considérés comme non médicalement requis.
Comme le dentiste.
La massothérapie, le dentiste, le physiothérapeute. Donc, les services médicalement requis au Québec, sont assumés à une proportion là, qui frise les 98-99% par le public. Nous, ce qu'on propose, c'est la mixité de la pratique médicale. Par contre, là, je veux l'expliquer comme il faut, la façon qu'on le propose. C'est Éric Kerr, député de la Pelletrie, qui a déposé un projet de loi là-dessus, le projet de loi 392. Je vais vous l'expliquer en deux, trois courtes phrases. C'est que présentement, pour avoir le droit de pratiquer au privé, les médecins devront faire 3 ans au niveau public. Donc, les médecins qui ont plus de 3 ans d'expérience vont pouvoir le faire. Les nouveaux vont devoir faire 3 ans dans le public pour avoir le droit de se qualifier. Puis pendant ces 3 ans-là, les médecins devront avoir fait le nombre d'heures moyennes de leur profession. Par exemple, un cardiologue, si par exemple un cardiologue, la moyenne d'heures par semaine, c'est 40 heures par semaine. Donc, un jeune cardiologue ou un cardiologue qui est déjà là depuis longtemps devra avoir fait au moins 3 ans à au moins 40 heures par semaine de moyenne. Suite à ça, lorsque le médecin va avoir fait sa pratique moyenne de 40 ans, là, il va pouvoir donner au privé par la suite. Donc, le système public est protégé entièrement et balisé. Le médecin, puis, si le médecin, la question était posée cette semaine, si un médecin se qualifie, par exemple, fait ses 3 ans, ben, il respecte la moyenne de sa profession, puis on lui donne le droit de pratiquer au privé. La première année, là, c'est la RAMQ qui va suivre l'évolution du médecin. La première année, si le médecin ne répond pas aux attentes, c'est-à-dire que ne fait pas ce qu'il faut faire dans le public, ben il va perdre son droit de faire le privé. Il va devoir refaire un 3 ans pour se requalifier. Donc, comme on le propose, la mixité, c'est les médecins devront d'abord offrir une prestation dans le public pour avoir le droit de faire du privé.
Il y a deux éléments qui semblent déranger là-dessus. Premièrement, c'est peut-être un peu l'élément d'entrée, la possibilité des gens de dire, en fait, vous avez des sous, faites le tour des listes d'attente, payez et d'être traité dans le fond à la hauteur de notre portefeuille plutôt qu'à à la hauteur de nos nécessités. Même si on garde une partie de public là-dedans, ça cause un certain problème. Et en parallèle, on prenait le dentiste justement qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est considéré comme des frais bon à côté, alors que bon, on s'entend, on a besoin de nos dents, c'est des frais qui sont nécessaires. Et toute la logique de dire, ben, ah, je me ferai pas faire un traitement de canal, ça coûte 2 000 $, j'ai pas les moyens, et de commencer tranquillement à donner une valeur à notre corps, à une valeur à notre santé, et de traiter notre corps comme un auto dans le fond, au bout du compte, okay, ça m'érange.
Au niveau de la prestation publique, ça ne changera jamais. La question que vous illustrez, le traitement de canal à 2 000 $, le système public va toujours rester présent, va toujours rester universel, va toujours rester très, très, très fort. Nous, ce qu'on propose, c'est un système privé en parallèle qui va désengorger les listes d'attente, puis qui va aider à soulager le financement de la santé.
Et aux États-Unis, l'ont fait un peu avec le système...
Entre le Canada, la Corée du Nord, puis Cuba, c'est les 3 seuls pays au monde qui ne permettent pas la pratique mixte. Entre ces 3 pays-là et les États-Unis, il y a tous les pays européens, il y a tous les pays scandinaves, il y a l'Australie, des pays qui ont su faire une place intelligente au privé dans la santé. Puis lorsqu'on regarde les études qui comparent les systèmes de santé des pays européens versus le Canada, on est dernier de classe. On est dernier de classe. Les États-Unis, ce n'est surtout pas l'exemple qu'il faut donner. Nous, ce qu'on veut copier, c'est les modèles européens. Ce sont les modèles européens. Puis d'ailleurs, Mme Monique Jérôme Forget, avec son mari Claude Forget, a écrit un livre sur la réforme de la santé en 1998. Puis c'est ce qu'elle dit. Elle dit, il faut arrêter de comparer le modèle américain. Il faut regarder ce qui se fait en Europe. La mixité de la pratique, c'est une solution qui est convenable, qui est efficace pour désengorger les listes d'attente, puis pour essayer de stopper le financement de la santé.
Et si on en regarde à court terme, ça peut avoir des effets relativement peut-être encourageants à certains égards, décourageants à d'autres, on s'entend là-dessus. Et ce qu'on dit beaucoup, c'est qu'en regardez, en faisant ça, on ouvre la porte au privé, on ouvre la porte à une place croissante. Si on leur donne ça, les compagnies d'assurance, les médecins, etc., vont dire, bon, on en veut plus, et tranquillement, ça va prendre la place du public. Là,
parce
ça,
que
à
la
long
pratique,
terme,
c'est parce que... Même si les compagnies privées veulent en avoir plus, tout ça va être limité parce que les médecins vont pouvoir offrir au privé. Puis nous, de la façon dont on a défini la mixité, c'est que les médecins vont toujours devoir offrir d'abord et avant tout une prestation dans le public. Les médecins seront obligés de travailler dans les hôpitaux, dans le système public, avant d'avoir le droit d'aller faire du privé.
Mais une loi,
sincèrement,
ça change.
Là, ça fait 20 ans que ça va pas bien en santé. Il y a 20 ans, je commençais ma carrière comme infirmière. C'était déjà le bordel. Et là, on nous propose les mêmes solutions. On veut pas changer rien. C'est quoi qu'on fait? On continue à allonger les listes d'attente. On propose une solution.
C'est la seule qui est proposée, d'ailleurs.
C'est dans le secteur santé. Et on se fait toujours dire que c'est pas possible, c'est dangereux. Puis on vous certifie que ça va être protégé, l'universalité.
Même ça va être mieux encore, parce que présentement, les médecins doivent choisir entre le public ou le privé. Donc, on perd des médecins au public.
Il y en a, en fait,
des
chiffres, juste parenthèse.
On perd des médecins à l'extérieur aussi.
Oui, parce que je pense qu'en fait, sur 18 000 médecins, il y avait des chiffres que j'étais tombé, il y en avait 153, mais je sais pas, pour l'organisme lui-même, c'était l'organisme des médecins contre le système privé ou quelque chose du genre.
Cette année, il y a...
Dans les ordres de médecins aussi.
Dans la dernière année, il y a 90 médecins de famille qui ont abandonné la pratique publique pour aller faire essentiellement, exclusivement du privé. Puis ce que ces médecins-là ont dit, c'est qu'il y avait un intérêt pour la mixité de la pratique, mais qu'on les empêchait de le faire. Donc la réalité, au lieu de la mixité, là, au lieu de couper des vivres, des réserves au système public, c'est tout à fait le contraire. C'est qu'on permettrait d'ajouter des ressources parce qu'il y a des médecins qui sont intéressés à le faire, qui sont prêts à faire ce qu'ils ont à faire dans le système public. Puis en dehors de ça, le soir, les fins de semaine...
C'est une question de salaire au bout du compte, j'imagine.
Ils ont le droit.
C'est une question de pratique. Le temps file, là. On n'a pas parlé encore de culture. Est-ce qu'on attend après la pause?
Oui, on pourrait prendre peut-être une petite pause musicale D'accord. pour faire le tour des autres dossiers. On va prendre une petite minute en compagnie, donc, de trois gars sur le sofa.
Quand tu marches sur l'île de Pâques, t'entends les statues qui jasent, qui se demandent s'il y en a d'autres statues ailleurs. T'as le temps de te demander ça longtemps quand t'es une statue de l'île de Pâques. Statue de l'île de Pâques.
Et ben voilà, courte pièce de trois gars sur le sofa. On est toujours en discussion autour des élections en compagnie de trois candidats de l'Action démocratique du Québec. Encore beaucoup de choses à se dire. Donc Jean-François Gosselin dans Jean Lesage, Martin Briand dans Jean Talon, René-Claude Lisotte dans Tachereau. Et on se lance.
Et moi, j'aimerais ça parce que Mario Dumont, quand il est venu à Québec, ben, il est venu quelques fois, mais quand même, une des fois qu'il est venu, il a dit quelque chose d'assez marquant. Je pense que c'est important. On va plonger dans le domaine de la culture maintenant. Donc, il a dit que le succès des fêtes du 400e était dû à son équipe. Donc, évidemment, à Québec, il y a beaucoup de gens de la DQ qui ont été élus. Donc, non, il n'y a pas
dit
ça?
Non, c'est pas ça. Ce qu'a dit M. Dumont, c'est que le succès des fêtes du 400e anniversaire, c'est la population de Québec qui en a fait un succès. C'est la population de Québec qui a décidé de participer aux événements, qui a décidé d'en faire un succès, les fêtes du 400e. Ce que Mario Dumont a dit, c'est que la population de Québec a posé une série de gestes au cours des derniers mois, des 18 derniers mois, qui fait en sorte qu'on en a fait un succès. Puis parmi les gestes qui ont été posés, ça a été de se donner un caucus à des quais très, très fort dans la capitale nationale. Donc, c'était un geste parmi tant d'autres qui ont été posés par la population de Québec pour dire que nous, on veut se prendre en main. Nous, on veut prendre nos ressources en main. On veut se donner le pouvoir. Je regarde le slogan « Donnez-vous le pouvoir », j'ai pensé à ça. Donc, nous, on veut se prendre en main, puis on veut faire de la ville de Québec un succès à tous les niveaux.
Donc, vous acceptez le fait que, finalement, peut-être que la DQ n'a pas grand-chose à voir dans la victoire.
En fait, nous, on n'est pas comme les libéraux. Là. On n'ira pas prendre le crédit des succès des autres et s'y approprier. Un peu ce que Jean Charest a fait en s'autoproclamant. D'ailleurs, là-dessus... Les fêtes du 400e, M. Daniel Gilina est en grande partie responsable. Nous, on posait des questions à l'Assemblée nationale et la deuxième opposition aussi posait des questions sur le 400e. Et il y a de ça un an, jour pour jour, le gouvernement libéral nous disait « tout va bien ». Et le 31 décembre au soir, après l'élection de M. Labeaume, lui, a pris les deux chefs. Vu que ça allait pas bien, a pris les deux chefs, a appelé son ami Daniel Gilina et a dit « j'ai besoin d'aide, viens m'aider ». C'est ça qui a fait le succès du leadership politique. M. Charest, évidemment, a pris des photos et a serré des mains tout l'été en prévision de la campagne électorale. On le comprend mieux maintenant, mais nous, on n'ira certainement pas s'attribuer le succès des fêtes du 400e. Au contraire, on y a participé, mais en tant qu'individu. C'est la population de Québec. On a prouvé à Québec qu'on était capable d'organiser des grands événements. On est bien fiers de ça.
Et puisqu'on est dans la ville de Québec, on peut y rester. Quelques éléments, quelques questions par rapport à l'organisation de la ville. Mm-hmm. Notamment, c'est sûr un dossier qui touche peut-être plusieurs auditeurs, c'est le dossier du transport en commun. Du côté de l'Action démocratique, bon, j'imagine, on s'entend, il faut améliorer le transport en commun, il faut trouver des manières de le rendre plus efficient. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour le rendre? Qu'est-ce que vous voulez faire pour le rendre plus efficient?
Là-dessus, moi, je peux répondre. C'est que nous, on a toujours dit que ça prenait, évidemment, une étude, savoir où on s'en va avec le transport en commun dans la région de Québec. Mais pas une étude payée à gros prix avec des consultants. On est des fonctionnaires compétents et laissons les fonctionnaires faire leur travail et nous proposer quelque chose, savoir où on s'en va. On parle souvent de tramway. Moi, jamais personne ne m'a demandé un tramway. Jamais. J'ai 48 000 électeurs, là. J'ai jamais entendu ça. Donc, c'est plus les besoins de transport en commun. Je prends l'exemple là, du nouveau parcours 802. Les gens viennent me voir. Évidemment, moi, je suis au niveau provincial. Les gens viennent me voir, disent qu'il y a quelques problèmes avec le nouveau parcours. Moi, j'en parle, évidemment, au niveau municipal. Je parlais avec M. Marcotte. Je crois que la situation va se régler. Mais ça, c'est des cas au quotidien. Mais certainement, ça prend une étude pour savoir où on s'en va. Parce que dans l'Est, surtout dans l'Est, mon collègue Hubert Benoît a des gros problèmes avec ça. C'est très mal desservi.
C'est ça. Le tramway, on n'y croit pas. C'est cute comme projet, mais est-ce qu'on en a les moyens? La réponse est non. S'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est bonifier l'offre de service, surtout en périphérie. Du côté Est, tu as parlé du comté de Montmorency, du côté Nord, du côté Ouest de la ville. Donc, l'axe central par le métrobus est somme toute bien desservi. Ça passe aux 5, 10, 15 minutes, c'est bien desservi. Sauf que, on parle un peu de l'étalement urbain, c'est qu'il faut organiser les services pour aller chercher ces gens-là en périphérie, puis les amener sur l'axe central, les amener au centre-ville. C'est surtout ça qu'il faut viser à bonifier, d'abord et avant tout.
Est-ce qu'on pense à des voies réservées sur les autoroutes pour les autobus, des choses comme ça?
Faut d'abord penser à augmenter la servitude, c'est-à-dire le nombre d'autobus puis le nombre de passages, avant de penser à aménager des voies. T'sais, avant de faciliter l'accès au centre-ville, faut d'abord mettre des autobus sur place en périphérie.
Donc là, on est dans la section environnement. J'aimerais ça peut-être qu'on l'a fait jusqu'à maintenant avec tous les partis, donc on va continuer avec la DQ. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de favoritisme ici. Donc, on va parler de l'incinérateur, donc une immense usine qui rejette des produits toxiques dans l'atmosphère, qui est dangereux pour la santé des habitants de Limoilou. Qu'est-ce que la DQ propose?
C'est ça, d'ailleurs, il y a eu une séance d'information, il y a tout ça, un mois, je crois, au Cégep Limoilou, je suis allé, et c'est pas loin d'où j'habite. L'incinérateur, et j'ai été scandalisé. Les gens de l'agence de santé sont venus nous dire que, avec les études qu'ils avaient faites, évidemment, personne ne comprenait là, de quoi ils parlaient, là, c'était tellement technique, et ils sont venus nous dire que l'air était plus pur autour de l'incinérateur que n'importe où dans la région de Québec. Donc, moi, j'ai pas pu résister à la tentation de me lever et d'aller leur dire une chose. À Limoilou, dans la basse ville ici, là, on est tanné que vous nous preniez pour la poubelle de la ville de Québec. Et c'est illogique d'avoir un incinérateur en plein milieu résidentiel. Et non, c'est pas vrai que l'air est plus pur. Nous, on la sent à tous les matins. On la voit. On voit les camions qui circulent. Et je leur ai dit, aussitôt qu'il y aura une fenêtre d'opportunité pour déménager ça de là ou pour faire quelque chose d'autre, je serai là en tant que député provincial pour aider la ville ou aider les intervenants qui veulent faire quelque chose d'autre. Mais à Limoilou, on est tanné, on en a assez d'être
considérés. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, regardez, fermez-le, point?
Regardez-le, OK, on parle de... Ils sont rendus à 60 quelques millions là-dedans. On regardait juste le prix des élections. Les élections viennent nous coûter 83 millions pour de fausses raisons, des raisons purement partisanes. Ça, c'est un des projets que moi, j'ai mis sur ma liste de cadeaux de Noël que j'aurais pu faire... Au lieu d'aller en élection, moi, ce que j'ai dit à cette séance d'information-là, et il y avait beaucoup de gens aussi de d'autres partis politiques qui étaient là, de d'autres organismes, on est tous d'accord là-dessus. Et moi, j'étais scandalisé de me faire dire que l'air était plus pur autour de l'incinérateur qu'ailleurs dans la région de Québec.
Mais je pense qu'on pourrait pas fermer sans autre solution préparée à l'avance, là, parce qu'on a un problème d'enfouissement des déchets. On a un surplus de déchets dans la province de Québec.
Mais qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Vous avez parlé de déménagement, fait que peut-être que vous feriez un incinérateur ailleurs.
Mais récupération, on parlait de compostage aussi, mais c'est au niveau municipal. On s'entend au niveau municipal. Nous, au niveau provincial, on serait là pour accompagner, évidemment, avec de l'argent, avec peut-être des différents sites. Mais le principe de base est Nous, à Limoilou, on veut plus être considéré comme la poubelle de la ville.
Et en parallèle, en fait, si on regarde un peu votre plateforme régionale, vous avez beaucoup appuyé le projet d'éventuel amphithéâtre. On parle d'à peu près 120 millions de dollars de promesses, je crois. Là-dessus, c'est 60 millions de dollars pour l'amphithéâtre. Donc, c'est pratiquement 50% du budget que vous avez promis pour la région. Est-ce que ça veut dire que c'est la priorité régionale qu'il n'y a rien d'autre d'importance équivalente?
Là-dessus, l'amphithéâtre, là, moi je veux faire un point pour être clair. Nous, l'amphithéâtre, là, c'est pas simplement un outil de loisir ou de... C'est un outil, comme si on compare à Winnipeg, parce que Sylvain Légaré, lui, a fait le voyage à Winnipeg, avec Placide, à Montréal, à Ottawa, est allé voir les autres amphithéâtres, contrairement aux deux autres parties qui proposent la même chose, mais n'ont pas fait leur devoir. Sylvain Légaré, lui, il les a fait. Nous, c'est un outil de développement économique. Donc, c'est pas une dépense. Okay? À Winnipeg, moi-même, j'ai parlé avec un des administrateurs là-bas, il me disait qu'il avait fait 128% de leur chiffre d'affaires en 3 mois cet été, comparativement à la dernière année de l'ancien amphithéâtre. Donc, c'est du développement économique. C'est aussi sûr que c'est du rayonnement de la ville en plus, mais c'est du développement économique.
Parce qu'on est sur 60 millions-là, vous l'auriez, votre nouvel incinérateur aussi.
Oui, mais justement, c'est que ce 60 millions-là, c'est un investissement. Okay? C'est un investissement qui nous en rapporte en impôts, en taxes. C'est payant pour le gouvernement, comme le Centre Bell est payant pour le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la ville de Montréal. C'est dans ce point de vue-là, nous, moi, je suis avant tout un contribuable comme mes collègues et on veut pas brûler de l'argent dans un amphithéâtre pour le simple plaisir. Nous, c'est vraiment un outil de développement économique qui générer de la richesse, générer de meilleurs emplois. Et on y croit, c'est dans cet angle-là qu'on l'a toujours abordé. Donc, faut pas voir ce 60 millions-là comme une dépense.
Je vous écoute, là. J'ai l'impression un peu que la DQ veut gérer le gouvernement un peu comme une business. On veut construire des trucs pour que ça génère de l'argent, que ce soit rentable.
En fait, le gouvernement... C'est en quelque sorte une entreprise. Moi, je suis un contribuable, je paye des impôts, je paye des taxes comme tout le monde. Et ensuite de ça, j'utilise les services du gouvernement, donc je dois en avoir pour mon argent. C'est la base même de... C'est pour ça aussi que nous, on est le seul parti aussi qui a présenté un cadre financier qui dit où on va prendre l'argent. Tandis que les deux autres font des promesses, nous disent qu'on est en crise économique, les libéraux nous disent qu'on est en crise, ils font des promesses, mais ils disent pas.
Mais par contre, faut faire attention avec des raisonnements comme ça. Des fois, l'argent de nos taxes, c'est un peu le dos large aussi. Une question de solidarité. Il y en a qui donnent un peu plus, qui reçoivent un peu moins. Il y en a qui reçoivent un peu plus, qui donnent un peu moins.
Mais c'est juste pour revenir sur Québec, là, je pense qu'on a le droit de jouer sur plusieurs tableaux en même temps. C'est pas de dire que l'amphithéâtre, c'est une des priorités, c'est un objectif, mais on a le droit de jouer sur d'autres tableaux. Québec, là, de la façon que je vois Québec depuis 2-3 ans, ça fait 16 ans que je suis ici, je pense qu'on a le droit d'être ambitieux. On a le droit de rêver, puis on a le droit de se donner plusieurs projets. Parce que ce que la dernière année et demie nous a montré, c'est qu'on est capable de réussir. Lorsque tout le monde participe, lorsque tout le monde embarque, on est capable de faire des grandes choses à Québec. On a le droit d'être ambitieux, on a le droit de viser plusieurs projets. Nous, on a parlé de l'amphithéâtre, on a proposé 300 millions sur 10 ans pour améliorer les infrastructures sportives partout au Québec, dans la ville de Québec, dans Québec, les gymnases dans les écoles, les patinoires, les terrains de soccer, pour développer une culture sportive. Puis ça, là, on a parlé de la santé tantôt, là. C'est important de créer un besoin, de créer une habitude que les gens aient besoin de bouger. C'est notre système de santé qui va mieux s'emporter en bout de ligne.
Exactement.
Alors ben là-dessus, on prend une dernière pause publicitaire. On revient avec des questions rafales. On restera localement aussi, donc ça va être un peu notre fourre-tout. Alors toujours en compagnie de 3 candidats de l'Action démocratique du Québec. Je vous rappelle donc René-Claude de Lisotte dans Taschereau, Jean-François Gosselin dans Jean Lesage, Martin Briand dans Jean Talon. Au micro, François Gécouillard et Raymond Poirier. On se retrouve dans 2 minutes.
Ah, ça se peut pas faire des films d'animation en 2 jours. Ben oui, ça se peut. Le dimanche 30 novembre prochain, à 18h30, seront projetées les œuvres réalisées dans ces conditions par une vingtaine de réalisateurs au Musée de la Civilisation. Ce cabaret d'animation Kino est organisé dans le cadre des sommets de cinéma d'animation 7, présenté par Antitube et la Cinémathèque québécoise en collaboration avec le groupe Kiwi City.
Le cinéma Le Clap et ses partenaires majeurs, Rogers Megasat, Cora Stéréophonie, le 93.3, Norcob et Affiche Tout, lancent la première édition du festival À vos cellulaires, filmé. Du 12 octobre au 27 novembre 2008, les participants sont invités à produire des courts-métrages ou des films d'animation d'une durée de 1 minute à l'aide d'un cellulaire.
Cette fois, c'est sérieux. Hein?
4 000 $ en prix, dont un iPhone avec 3 ans d'utilisation gratuite jusqu'à concurrence de 2 900 $. Pour information, www.clap.ca.
Yeah.
Bonjour, ici Agnès Maltais. Depuis 10 ans, je suis une députée à l'écoute des gens de Taschereau, disponible et accessible. Permettez-moi encore de saisir vos rêves, défendre vos aspirations et de porter vos projets. Pour un Québec gagnant, le 8 décembre, on vote Parti québécois.
Autorisé par Gilbert Côté, agent officiel du Parti québécois.
Le jeudi dès 9h à CKRL, le Babillard s'empare des ondes. Magazine d'information sur les enjeux sociaux et économiques des quartiers centraux, il aborde différents sujets tels l'école communautaire, la vie à Limoilou et la conciliation travail-famille. En compagnie d'intervenants de premier plan, le Babillard aborde tous ces sujets.
Le Babillard est une présentation d'Emploi Québec, le CLD de Québec, l'arrondissement Limoilou, le Cégep Limoilou, la commission scolaire de la capitale, le forum jeunesse de la capitale et Centraide.
Le Babillard, le jeudi dès 9h à CKRL.
Vous écoutez CKRL, la radio culturelle au 89,1.
Avant 9h, tout est prêt.
Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1, l'émission avant 9h, tout est possible. Raymond Poirier au micro en compagnie de François G. Couillard à la co-animation. Et bien entendu, on poursuit dernier bloc donc de cette troisième rencontre électorale. Alors ce matin, Action démocratique du Québec, René-Claude Lisotte, Jean-François Gosselin et Martin Briand. On se lance dans une section, question en rafale. Alors, question brève, réponse brève. On va essayer de faire continuer un peu notre panorama. Alors, question curiosité. En fait, on a parlé d'Internet sans fil à Québec du côté de l'Action démocratique, du côté des libéraux. Le Parti libéral nous dit que ça va prendre 1 million de dollars. L'Action démocratique nous dit que ça va en prendre 16. Alors, soit vous avez promis 15 millions de dollars de trop, ou sinon les libéraux sous-évaluent dramatiquement les coûts.
La réponse est B. Parce que nous, on est parti, c'est Sylvain Légaré qui a travaillé beaucoup là-dessus. Il y a des gens aussi dans la capitale nationale qui ont travaillé beaucoup là-dessus dans le caucus. La Jeune Chambre de commerce. Puis nous, l'exemple, ce qu'on a pris en exemple, c'est ce qui s'est fait à Boston. Puis à Boston, le chiffre de 16 millions vient du coût que ça a coûté pour installer Internet sans fil à Boston.
On s'entend que Québec, c'est pas Boston.
La grandeur de la ville, c'est sensiblement la même chose.
En
termes de superficie, c'est sensiblement la même chose. Donc, le coût de 1 million, dit par les libéraux, est largement sous-estimé.
Et est-ce qu'on parle de ce que Zap Québec a mis en place ou on crée un autre réseau?
Québec a déjà mis en place.
Oui, en fait, il a déjà mis en place plusieurs postes de distribution d'Internet sans fil partout dans les quartiers centraux.
Oui. Mais en fait, c'est sûr qu'il n'y aura pas deux systèmes, là, mais...
C'est maximiser ce qui est en place.
Mais c'est un bel exemple de partenariat public-privé là, qu'on pourrait faire. Nous, on est plus à l'étape de dire c'est ça qu'on veut faire. Et on établit les coûts environ 16 millions parce qu'à Boston, c'est ça que ça a coûté.
Bon, il y a un entrepreneur qui a laissé une façade d'église à Québec, s'est laissé pogner la pourriture dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là?
Ben, Madame Saint-Pierre a dit qu'elle avait pris des ententes. On a appris que l'entrepreneur n'avait pas d'entente du tout. Fait que ça vous donne un autre exemple là, de l'irresponsabilité des libéraux présentement dans les dossiers.
Mais qu'est-ce que la DQ va faire?
Ben, on veut faire activer le dossier, qu'on conserve la culture, le patrimoine qui est rattaché à l'église qu'il y a là.
On parlait de logement social tout à l'heure. Je voudrais y revenir brièvement. Dans la région de Québec, selon vous, combien de logements sociaux il manque? Et est-ce que vous comptez essayer justement d'en bâtir, d'en faire quelques-uns?
Non, j'ai répondu tantôt. Nous, ce qu'on vise, c'est de donner le levier financier aux gens pour être capable de se loger convenablement. Donc, c'est pas en construisant des logements sociaux, c'est plutôt en leur donnant les moyens de magasiner leur logement, d'aller se loger où ils veulent, où bon leur semble.
Parce qu'on dit que le coût des logements a explosé au fil des années. Des groupes aussi qui disent, ben, contrôlons justement le prix des loyers. Est-ce que c'est une piste qui vous intéresse?
Manque aussi beaucoup de logements à Québec. Hein. Une des raisons de tout ça, c'est que les propriétaires ont cessé d'investir dans les logements. Plusieurs parce qu'ils n'ont pas été payés. Moi-même, j'ai été propriétaire d'un logement et j'avais de la misère à me faire payer, donc j'avais certainement pas envie d'investir. Ça, ce que ça fait, quand il y a pénurie de logement, ben, ça fait grimper les prix.
Gens sont pas capables de payer leur loyer,
c'est ça. Il faut leur donner un levier financier, il faut leur donner des sous pour être capable de le faire.
Au sujet de l'hôpital L'Hôtel-Dieu, donc oui. Il y a eu des dépassements de coûts, c'est passé de 600 millions. Donc l'ADQ propose des comités d'experts pour les projets immobiliers de plus de 100 millions de dollars, mm-hmm. Donc des gens tirés du privé. Est-ce que c'est pas une solution magique? On se dit, il y a des gens du domaine des affaires qui sont dans un comité pour surveiller les coûts. Tout d'un coup, on prévoit les dépassements.
Sous la direction du vérificateur général en passant, hein? Organisme indépendant. Pas non-partisans, c'est pas nécessairement des gens du privé, c'est des experts. On a besoin d'experts qui ont déjà géré des projets comme ça. Comme c'était le cas dans le CHUM, des experts nous avaient dit exactement tout ce qui arriverait, tous les problèmes qui arriveraient. Donc, nous, c'est ça qu'on a proposé.
C'est paradoxal parce que, je veux faire le parallèle avec le CHUM à Montréal, là, on veut démolir l'hôpital Saint-Luc à Montréal, parce qu'on dit on ne sait jamais ce qu'on peut trouver dans les murs. Ça va coûter moins cher construire du neuf que de rénover du vieux. Par contre, si à Québec, l'argument ne tient plus, puis on parle du plus vieil édifice, du plus vieil hôpital en Amérique du Nord. Donc la facture, vous l'avez dit, est passée de 173 à 635 millions, puisqu'on a compris, vous l'avez dit tantôt, la porte est encore grande ouverte. 635 millions, c'est pas le point final. Nous, ce qu'on dit, c'est que tous les experts s'entendent pour dire qu'effectivement, ça coûte beaucoup moins cher de construire du neuf que de rénover du vieux. Deuxièmement, l'accessibilité, les stationnements, c'est extrêmement difficile autour de l'Hôtel-Dieu. Puis peu importe la somme astronomique qu'on va investir là-dedans, on ne réglera pas cette question-là, ce problème-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire ça. Ailleurs, à Québec, construire un hôpital neuf, L'Hôtel-Dieu le rénové, il y a une enveloppe de 100 millions qui est réservée pour rénover l'Hôtel-Dieu. On le rénove, on offre un hôpital de proximité, un service d'urgence qui habite le quartier, puis le centre de cancérologie qui sera là pour tout l'Est du Québec. On veut le construire à un endroit, un hôpital neuf, à un endroit qui est accessible.
On a beaucoup parlé au niveau de l'élection fédérale d'il y a quelques semaines du TGV Québec-Windsor, donc d'un TGV Québec-Montréal. Récemment, dans le Soleil, on apprenait que le tronçon Québec-Montréal serait pas nécessairement rentable et causerait préjudice au transport aérien, au transport par autobus notamment. Est-ce que du côté de la DQ, c'est encore un projet qui pourrait vous intéresser ou justement ces éléments-là vous font sourciller?
Non, pas du tout, parce que pour nous, le projet de TGV, c'est un moteur économique pour la ville de Québec. Donc, le but, effectivement, dans la situation actuelle, peut-être qu'il y a une problématique au niveau de la rentabilité pour le tronçon Québec-Montréal, mais l'objectif visé, c'est de favoriser un développement économique majeur à Québec. Donc, c'est comme, moi je regarde toujours, j'ai en tête le film avec Kevin Costner, là, Champ de rêve, où il dit construis un terrain de baseball et les gens vont venir jouer, c'est la même chose. Construisons un TGV à Québec et les gens vont venir s'installer ici, puis il va être rentabilisé de cette façon-là.
Il y a un an, l'ADQ faisait une percée fulgurante et devenait le parti d'opposition officiel. Donc maintenant, les sondages montrent que le momentum est tombé. C'est revenu comme c'était à l'époque, il y a deux ans, l'ADQ. Donc pourquoi cette chute spectaculaire de l'ADQ?
On parle de sondage. Vous savez qu'on commande jamais les sondages. Les politiciens commandent jamais les sondages, mais étant donné qu'on se considère pas comme des politiciens, on se considère comme des gens de la classe moyenne qui en avaient assez de la politique,
des citoyens.
Changement, c'est ça. Je vous dirais que quand je me promène sur le terrain, c'est pas ça que je vois. Et certaines personnes, évidemment, sont influencées par les sondages, ce qui est très malheureux. Quand les gens me disent ouais, ça va mal à la DQ, je leur demande toujours. Ah oui, qu'est-ce que vous trouvez qui va mal? Vous n'êtes pas d'accord avec nos idées? Là, les gens disent, non, c'est les sondages. Mais oui, mais dites-moi une erreur qu'on a faite. Nommez-moi en une erreur. Les gens sont pas capables de les nommer. Par contre, ils sont capables de nommer des bons coups. Dans mon cas, à moi, c'est d'Estimoville. Mais en revanche, je leur demande, OK, Jean Charest a monté dans les sondages. Nommez-moi quelque chose qui a fait Jean Charest. Les gens sont pas capables d'en nommer non plus. Donc, je pense qu'il nous reste deux grosses semaines. C'est les séries éliminatoires, c'est le dernier stretch. Le débat d'hier va certainement aider. Les gens à se former leur idée. Il y avait encore 40%, il y a toujours 40% d'indécis, là, ça tourne autour de 40% dans les deux dernières semaines. Je pense qu'on va réussir à aller en chercher une grande part.
Les problèmes sont toujours là. Puis tout ce que le Parti libéral et le Parti québécois proposent, c'est de remettre de l'argent dans ce qui marche déjà pas.
Les gens de Québec sont chanceux parce que l'équipe ADQIS à Québec là, est tout à fait merveilleuse. Des hommes et des femmes dévoués à la cause des gens de la région qui veulent améliorer leur sort. Moi, c'est pour ça que j'ai embarqué avec l'équipe. Quand je les ai rencontrés, ces gens-là, j'ai été époustouflée par leurs compétences, leurs qualités personnelles.
Et peut-être en terminant, avant de se lancer vers la conclusion, une dernière question en rafale. Il nous reste presque plus de temps, mais je veux absolument vous demander. Vous avez fait une sortie à Québec pour dire, regardez, faut améliorer l'immigration. On parlait de manque de travailleurs, c'est une manière d'aller en chercher. Une des solutions que vous proposez, c'est d'éviter les dédoublements, donc de sauver des sous de cette manière-là. Est-ce que c'est parce qu'on trouve qu'il y a trop d'argent qui est investi du côté de l'immigration? Parce que non. Du côté des groupes d'aide, on dit, regardez, ils manquent de ressources. Là.
Non, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est regrouper ces gens-là ensemble.
Concerter.
C'est pas concerté. C'est pas l'objectif, ce n'est pas de couper de l'argent. C'est pas parce qu'il y a trop d'argent. Mais par exemple, si à Québec, je crois qu'il y a c'est 65 organismes.
Exactement.
Tu sais, s'il y en a 5 ou 6 qui se consacrent à la même chose, c'est de mettre ces gens-là ensemble. C'est de mettre ces ressources-là ensemble pour qu'ils puissent jumeler leur budget, concerter leur budget, puis agir de façon plus efficace. Nous, ce qu'on vise par l'immigration, c'est une meilleure intégration. On vise 45 000 réussites à chaque année. Que ces gens-là puissent accéder au marché du travail. On a parlé de pénurie de main-d'œuvre. Ces gens-là peuvent être utiles au Québec. On veut les intégrer efficacement pour qu'ils puissent participer avec l'ensemble des citoyens là, à bâtir le Québec.
Ils sont même très utiles au Québec. On vient de parler un peu du côté de volet économique, mais moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours été impliqué au niveau du soccer bénévole et le nombre d'immigrants que eux ont amené justement la culture sportive, le soccer, qui nous ont montré à jouer au soccer, c'est une richesse incroyable à Limoilou. Et comme Martin l'a dit, c'est bien important parce qu'on se fait traiter de raciste à chaque fois qu'on parle d'immigration, mais on est loin, loin, loin d'être raciste. On parle de 45 réussites d'intégration au Québec et ça sert à rien d'amener plus d'immigrants si on s'en occupe pas, comme les deux gouvernements précédents ont fait.
Et peut-être, en terminant, je ferai un dernier petit tour de table en vous demandant, enfin, en quelques mots, la priorité dans votre circonscription. Alors, on va commencer peut-être par Mme Renée-Claude de Lisotte, qui est candidate dans Taschereau.
Oui, moi, c'est de développer davantage de projets sportifs et culturels, tant au niveau scolaire que communautaire. Au début de la rencontre, je vous disais qu'il se fait du beau travail. Alors, on peut optimiser les services communautaires aussi en même temps.
Alors, Martin Briand, qui est candidat dans Jean Talon.
Deux clientèles que je vise dans Jean Talon. Premièrement, les aînés, les personnes âgées. On offre une aide pour les aidants naturels pour favoriser le maintien à domicile. C'est excellent. Les jeunes, les enfants, les familles, développer les infrastructures sportives. Je parle entre autres dans mon comté, Jean Talon, du Super Peps, qu'on a annoncé 4 fois, qui est toujours pas sur pied. D'ailleurs, c'est le seul politicien qui en a parlé ouvertement cet été, c'est Sylvain Légaré, qui a mis de la pression là-dessus, qui a mis l'accent là-dessus. C'est un projet qui doit se réaliser.
Et en terminant, Jean-François Gosselin dans Jean Lesage.
C'est certain, comme mon collègue Martin Briand, pour les aînés d'Estimoville, évidemment. Mais j'ai un nouveau projet que j'ai proposé cette semaine. C'est un projet de patinoire extérieure. En fait, c'est multisport communautaire. C'est un projet que le Canadien de Montréal a fait dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Et il y en a 9 autres projets comme ça qui sont prévus, payés par le Canadien de Montréal et opérés par la ville. J'en ai parlé à la ville, sont très d'accord, trouvent que c'est une excellente idée.
Petro-Laval, dans Taschereau aussi, ont une patinoire comme ça.
C'est ça. Mais le projet du Canadien de Montréal est encore plus... encore plus important, pas important, mais dans le sens qu'il y a plus de sports qui sont inclus. Mm-hmm. L'équipement fonctionne à l'année longue. Donc, c'est un nouveau projet là, qu'on verrait pour Limoilou et pour Beauport, parce qu'à Beauport, il y a beaucoup de problèmes d'heures de glace, de disponibilité d'heures de glace pour les jeunes hockeyeurs.
Et en une phrase, chacun, pourquoi voter pour l'Action démocratique du Québec?
Un parti d'action qui veut améliorer le sort des Québécois.
Parce que vous voulez vous occuper de vos choses. Le Québec, c'est à vous, les citoyens, puis vous voulez le prendre en main.
Bien, moi, je dirais c'est pour vous. On veut travailler pour vous, on veut se battre pour vous pour faire avancer les dossiers. On le fait depuis 18 mois, on veut continuer à le faire.
Jean-François Gosselin, Martin Briand, René-Claude Lisotte de l'Action démocratique du Québec, merci.
Merci.
Merci à vous.
Alors ben voilà, c'est ce qui termine le troisième jour donc de cette semaine électorale. François G. Couillard, on te retrouve demain.
Et oui, ça va être Québec solidaire, donc ça va être intéressant. Des gens qu'on voit pas dans les débats. Hier, au débat des chefs, ils n'étaient pas là, le parti vert non plus. Donc aujourd'hui, on va leur donner autant de temps que les autres partis.
Alors ce sera un rendez-vous demain. Alors, on se revoit autour de 7h30. Alors ben nous, là-dessus, on s'en va en musique. On écoute Armand Méliès, Le Soupir du Monde.